j'aimerais déjà attirer votre attention sur le fait qu'il existe en réalité deux types de géants. Il existe deux sortes de géants. Et la catégorie à laquelle appartient Goliath n'est pas la catégorie la plus dangereuse, bien qu'elle soit quand même sérieuse, bien que Goliath soit effrayant, bien qu'il soit aguerri, bien qu'il ait une certaine puissance, bien qu'il ait de l'expérience, bien qu'il puisse nous faire peur, bien qu'il faut le prendre très au sérieux. Le plus gros problème en termes de géant, ce n'est pas Goliath. Non. Il y a d'autres géants dans la Bible qui sont beaucoup plus subtils et qui causent parmi les enfants de Dieu, dans le peuple chrétien, beaucoup plus de ravages que Goliath. Et ils sont dans la Bible. Comment triompher de nos géants ? On va commencer par les identifier, on va essayer d'aborder la chose de façon logique. Il y a deux sortes de géants, ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, ce sont ceux, on le verra plus tard, ceux qui se dressent sur votre parcours, ceux qui se dressent devant vous au travers des circonstances. C'est Goliath, c'est son frère, c'est Jishbit Benod, c'est d'autres géants comme ça. Il y en a plusieurs dans l'Écriture, mais ceux-là ne sont pas les plus dangereux encore à mon sens, bien qu'ils soient sérieux. Et j'aimerais ce soir, dans un premier temps, considérer avec vous les géants, non pas qui sont à l'extérieur, mais les géants qui sont à l'intérieur. Il y a des géants qui sont déjà en vous. Ils sont déjà là. Vous ne les avez peut-être pas sentis, vous ne les avez peut-être pas vus, vous ne les avez peut-être pas identifiés. Pourtant, je vous garantis qu'ils sont bel et bien là. Ils sont déjà à l'intérieur. Et il faut toujours commencer par cela. Ce sont les plus grands, ce sont les mieux dissimulés, ce sont ceux que l'on a le plus de mal à identifier et à vaincre. Vaincre un Goliath, un géant extérieur, je vous le redis, à mon sens, ce n'est pas le plus difficile. Quelques principes spirituels suffisent. Goliath, comme son frère, comme quelques autres dans l'Écriture, sont impressionnants, ils sont effrayants, mais ne sont pas les plus dangereux. Et ce ne sont pas eux qui vont faire le plus de dégâts au sein du peuple de Dieu. Et ce dont on va parler ce soir, ce sont les géants qui sont à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur du pays promis. Ce sont les plus tenaces, parce que le problème de ces géants, c'est qu'on ne les voit pas forcément, on a du mal à les identifier, et en plus, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. On va voir ça, je vois qu'il y a des gens, ils sont comme ça. Ouais, en même temps, ben, s'il le dit, ça doit être vrai, parce que c'est lui le pasteur, mais enfin quand même... On va avancer ensemble. En même temps, c'est bien, il faut que vous ayez un peu de surprise. Vous ne pensiez quand même pas que le premier soir, j'allais vous sortir David et Goliath. Trop facile, non, trop facile. Alors, défroncez vos sourcils, souriez, on va y arriver. Mais j'insiste quand même, j'ai mis cette simple petite phrase-là comme ça, vous retrouverez ça sur le site internet. J'ai mis cette simple petite phrase quand même, et j'en reparlerai aussi demain, quand on parlera de David et Goliath, parce que oui, promis, on en parlera. Il est impossible de renverser les géants qui sont à l'extérieur si on n'a pas d'abord identifié et vaincu ceux qui sont à l'intérieur. Je répète. Il est impossible de renverser les géants qui sont à l'extérieur si on n'a pas d'abord triomphé de ceux qui sont à l'intérieur. Et comme je sens que le suspense est à son maximum, on ouvre tout de suite le livre des Nombres, s'il vous plaît, au chapitre 13. Et au verset 22. Nombre 13, juste le verset 22. Nombre 13, verset 22. Ils montèrent par le midi, ces espions envoyés par Moïse, ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Amen. Ahiman, Shéchaï et Talmaï. D'accord ? Vous allez tout retrouver sur le PowerPoint après, c'est des noms un peu compliqués, mais ça va rentrer tout doucement. On va dans le livre de Josué. Josué, chapitre 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadès-Barnéa. » Verset 7, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, les 10 autres espions qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, les enfants d'Anak, les Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. On va un petit peu plus loin. Au chapitre 15, toujours dans Josué, le chapitre suivant, le chapitre 15, au verset 13. On donna à Caleb une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb, lisez bien avec moi. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Ahiman et Talmaï, les enfants d'Anak. Amen. J'aimerais vous parler ce soir de ces trois géants. Ces trois géants qui, à mon sens, sont plus dangereux et font plus de dégâts dans le cœur, dans les vies, dans les églises, que Goliath n'a pu en faire par le passé. Ces trois géants, désolé de vous choquer, ils sont déjà en vous. Ils ne se dressent pas sur votre route, les géants, ils sont déjà dans votre cœur. Ils sont déjà dans le pays. D'après Nombre 13, 22, vous avez vu comme moi que 40 ans auparavant, on parlait déjà de ces géants-là, c'est exactement les mêmes noms. Je fais juste un petit rappel. Le pays promis, c'est pas la marche du chrétien vers le ciel. Le pays promis, l'abondance spirituelle, le pays où coule le lait et le miel. L'abondance, symbole de l'abondance spirituelle, représente non pas le ciel, il représente la plénitude de vie de Dieu. C'est l'abondance spirituelle. Ce n'est pas la vie que vous aurez dans le ciel, c'est la vie que Dieu veut vous donner ici-bas. C'est la qualité que Dieu veut vous donner, sa qualité de vie. C'est une vie abondante, une vie de qualité, une vie de plénitude. Merci Seigneur pour tout ce que j'aurai dans le ciel. Merci pour la plénitude, pour l'abondance, pour la joie, pour l'éternité, la joie ineffable, pour tout dans le ciel. Mais en attendant d'aller au ciel, Dieu veut que le ciel soit dans mon cœur ici et maintenant. Et Dieu veut que je vive déjà de la vie et de l'abondance du ciel. La vie que Dieu veut me communiquer est une vie forte, c'est une vie puissante, c'est une vie vigoureuse, c'est une vie épanouie. C'est pas une vie au ras des pâquerettes, c'est pas une vie chétive, c'est pas une vie dans laquelle je suis toujours malmené par la moindre pensée, le moindre combat, la moindre circonstance, le moindre Goliath, le moindre ceci. Non, le pays promis, c'est la plénitude de vie de Dieu. Hébron signifie littéralement union, communion. Hébron, c'est un lieu élevé, c'était un sommet qui se trouvait à 30 ou 40 kilomètres au sud de Jérusalem et qui culminait à peu près à 1000 mètres d'altitude. Hébron, c'est donc les hauteurs de la vie avec Dieu. Si vous lisez le récit de Samson dans le livre des Juges, vous allez vous apercevoir qu'il était appelé à Tsoréa. Et Tsoréa, c'est un lieu élevé. Et tous ces lieux dans la Bible désignent une qualité de vie, désignent une vie élevée avec Dieu. Et ici, c'est Hébron. Hébron, c'est un lieu qui est important. Déjà, Abraham ne s'y était pas trompé. Pendant que Lot était obnubilé par Sodome et Gomorre, par la plaine, par la facilité, Abraham, lui, il avait pris sa famille et il était en train de se taper les sentiers rocailleux, montagneux, dangereux, épuisants, fatigants. Oui, ça demande des efforts de monter avec Dieu, mais Abraham, il ne s'était pas trompé et lui, il était en train de monter à Hébron. Et quand il est arrivé aux chênes de Mamré, à côté d'Hébron, qui signifie force, vigueur, Abraham s'est installé ici. Lot s'est installé dans les plaines de Sodome et Gomorre et Abraham s'est installé aux chênes de Mamré qui sont à Hébron. L'union, la communion, la vie avec Dieu. Plus tard, bien plus tard, au temps des rois, une fois que Saül est mort, la prière de David, la première chose que David se demande, comment est-ce que je vais régner maintenant que je suis roi? Comment est-ce que je vais régner dans la vie? Et Seigneur, est-ce que je vais monter dans une des villes de Juda? Et si je monte, dans quelle ville je monte? Et Dieu lui dit, tu monteras à Hébron. Et Caleb ici ne s'y est pas trompé. Caleb, ce n'est pas le genre qui veut vivre une vie au rabais. Caleb, la vie de pâquerette, la vie de religiosité, pardonnez-moi, la vie où je suis toujours malmené pour un oui, pour un non, où je suis toujours déçu, où je suis toujours malmené, où je ne comprends pas, où j'ai toujours plein de questions mais pas beaucoup de réponses, plein de problèmes mais pas beaucoup de solutions, où je suis toujours défait pour un oui, pour un non, toujours inquiet, toujours pour ci, toujours pour ça. Caleb, ce n'est pas son truc. Caleb, il sait qu'il existe une dimension de vie élevée avec Dieu, une vie intérieure qui m'amène au-dessus des circonstances. Ce qui fait que, on en reparlera plus tard, le jour où il y a un Goliath qui va arriver, je ne vais pas l'aborder de la même façon si j'ai déjà commencé par vaincre ces trois-là et que j'ai déjà fait un séjour sérieux à Hébron. C'est pour ça que j'aborde ça dans un ordre chronologique. En plus, d'un point de vue chronologique, Goliath est apparu beaucoup plus tard que les enfants d'Anak. D'accord ? C'est les hauteurs de la vie avec Dieu. Caleb, il le sait. Il ne réclame pas une petite vallée verdoyante, synonyme de tranquillité. Non, ce que Caleb veut, c'est la vraie bénédiction. Il veut une dimension de vie avec Dieu. Caleb, il sait ce qu'il y a de la valeur. Ça fait 45 ans que tous les jours, quand Caleb se lève, il a une vision devant lui. Il dit, je veux vivre autre chose avec Dieu. Il a une passion, il est déterminé. Ça fait 45 ans, tous les soirs, il se couche et il rêve d'Hébron. Moi, pendant 20 ans, je rêvais la nuit, je rêvais d'une baraque. Qu'est-ce qu'on est bête quand on est jeune. 45 ans, tous les soirs, il se couche, il pense à Hébron. Tous les matins, il se lève, il saisit l'héritage spirituel qu'est le sien. Caleb ne s'y est pas trompé. Il veut cette dimension de vie. Il sait que ce genre de vie est possible. Mais il sait que ce genre de vie va avoir aussi ses obstacles. Et qu'il va y avoir des géants. Et ce n'est pas nouveau, parce que ça fait 40 ans. J'insiste, si vous avez fait attention, j'insiste sur le fait que c'est Caleb qui les a chassés. Ce n'est pas Dieu qui les a chassés, c'est Caleb qui les a chassés. Je les chasserai, verset 12, chapitre 14, verset 12. Un petit peu plus loin, on a lu ensemble au chapitre 15, Caleb en chassa les trois fils d'Anak. Alors, on va se pencher un petit peu sur ces trois géants, qui sont déjà dans le pays, qui sont à l'intérieur de nos cœurs, qui sont en réalité, qui constituent un barrage, qui constituent un obstacle à la bénédiction de Dieu, à la vie que Dieu veut déverser dans notre cœur. Trois géants qu'il faut absolument vaincre dans nos cœurs avant d'aller affronter des Goliaths ou autres. Le premier, il s'appelle Shéchaï. Shéchaï, dans l'original, son nom signifie « blanchâtre ». Et c'est un terme, il faut le savoir, c'est un terme qui est négatif. Parce que « Shéchaï », c'est ce qu'il désigne « blanchâtre », c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est pas gris, c'est blanchâtre, c'est... On se demande un peu ce que c'est, quoi. Sheshai désigne ce qui est toujours entre deux. Le problème de Sheshai, c'est ce géant dans nos cœurs qui fait qu'on n'est pas pleinement engagé. C'est ni blanc, ni noir. Je ne suis pas franchement froid, mais on ne peut pas dire que je sois bouillant. C'est toujours en demi-teinte. C'est toujours à moitié. Sheshai, c'est le géant qui s'appelle manque d'engagement. Sheshai, c'est le cœur partagé. C'est le fait de n'être jamais vraiment positionné. Je ne suis pas vraiment déterminé, donc puisque je ne suis pas vraiment déterminé, il n'y a pas réellement d'investissement intérieur de ma personne. Je suis... Ah, Sheshai, c'est cette petite voix intérieure inconsciemment qui vous dit « Eh oh, avec Dieu, on va quand même pas en faire un fromage pour des histoires spirituelles, ça reste que du spirituel, attention, faut pas être fanatique, frère, oh là là !» Doucement le matin, tranquille le midi, et pas trop vite le soir. Ça, c'est Sheshai. T'es chrétien, c'est déjà bien. T'es sauvé. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à être rempli du Saint-Esprit ? Tu vas parler des langues que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas chercher des complications ? T'es sauvé, de toute façon. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel. Ah oui ? Ah ben c'est vrai. Mais qu'est-ce que je m'embête ? J'ai une baraque à construire. Qu'est-ce que je vais chercher la plénitude du Saint-Esprit ? Ça ne sert à rien. De toute façon, je m'église tous les dimanches. Ça suffit largement et tout. Eh bien, Sheshai, ce n'est pas une voix qui vient de l'extérieur. Sheshai, il est à l'intérieur. Et Sheshai, ça fait 40 ans qu'il est là. Tu vas quand même pas engager ton cœur, tu vas quand même pas engager tes tripes, tu vas quand même pas mettre ton énergie, tes forces, qui tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu as. Tu vas quand même pas en faire un plat, tu as quand même autre chose à faire. Va à l'église dimanche matin, ce sera très bien, c'est bien, ça suffit. Et vous voyez, Sheshai, le fait de je suis là, mais je suis pas là. C'est pas méchant ce que je dis, hein, frères et sœurs. Mais parfois, même dans les réunions, des fois, on est là, de corps, mais on n'est pas là, de cœur. Vous allez dire, il est exigeant, ce pasteur. Et on peut être là physiquement, mais on est quand même en retrait, intérieurement. Parce qu'il n'y a pas la fougue, pardon l'expression, hein, il n'y a pas la niaque. Il n'y a pas la détermination, il n'y a pas l'investissement. Je suis là, c'est déjà bien. Et ce Sheshai, cette demi-mesure, cette demi-teinte, toujours à moitié, on le retrouve dans tous les domaines de nos vies. Dès que vous faites un pas avec Dieu, ça vous est jamais arrivé ça ? Vous faites un pas avec Dieu, vous avez décidé que les choses seraient différentes, vous voulez aller plus haut, vous voulez aller plus loin. Et au moment où vous commencez à chercher Dieu, au moment où vous commencez à essayer d'un petit peu aller plus loin, au moment où vous prenez position, Sheshai, il commence à se mettre en marche dans votre cœur, il se dresse sur votre route, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Mais non !» Jésus, le prince de la paix, qui fait que tu te couches et que tu t'endors en paix, en sécurité. Mais ça ne sert à rien, tu as ta pilule bleue, mange ton médicament, puis va te coucher. Qu'est-ce que tu vas chercher la présence de Dieu pour dormir bien ? Tu as des médicaments, mais prends tes médocs et va te coucher, arrête de chercher Dieu. Ça, c'est Sheshai. T'es chrétien, ça suffit, tu iras au ciel, c'est bien. Ouais, c'est sûr qu'on va au ciel par le salut et par la foi dans la personne de Jésus et dans son œuvre. Seulement, entre maintenant et le moment où on sera au ciel, il peut s'en passer des choses sur la terre. Et là, je ne vous apprends rien. Et là, quand on commence à vouloir aller plus loin avec Dieu, il y a une foule de raisonnements, il y a une foule d'excuses, il y a des pensées, il y a des prétextes, il y a des peurs, il y a des choses qui se lèvent en nous, il y a toujours quelque chose de légitime qui t'amène à revoir ton engagement à la baisse. Je suis toujours engagé, hein, mais... Un engagement modéré moins. Des fois modéré plus, modéré moins. Ça dépend. Même quand on donne à Dieu, combien de fois dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, mais même quand vous m'amenez vos troupeaux, quand vous m'amenez vos bêtes, vos sacrifices, vos holocaustes, vous ne m'amenez pas les prémices, vous m'amenez vos bêtes malades. Et en fait, le peuple ne servait pas Dieu avec les prémices, il amenait les restes. Et parfois, pardonnez-moi frères et sœurs, mais Shéchaï, parce qu'on ne lui a pas coupé la tête, excusez-moi l'expression, Shéchaï, il vient avec sa foule de raisonnements, et on sert Dieu avec les restes. On sert Dieu avec les restes de notre temps, s'il nous en reste. On sert Dieu avec le reste de notre argent, s'il nous en reste. Vous êtes content d'être venu ce soir. Hein? On sert Dieu avec le reste de ceci, s'il m'en reste. Je vais servir Dieu avec le reste de ma jeunesse. T'attends quoi? T'attends d'avoir 85 ans pour te mettre en marche avec Dieu? Et on sert Dieu avec des restes. Le reste de mon temps, le reste de mon argent, le reste de mon énergie, le reste de ma santé, au lieu de lui donner le meilleur, de lui donner les prémices. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Shéchaï, ça fait 40 ans qu'il est là, il a toujours été là, il est très malin, il a des super arguments, il se dresse sur notre route. Shéchaï, c'est le champion de la demi-mesure. C'est embêtant parce que Jésus, c'est le champion de la pleine mesure. Et Jésus, lorsqu'il est venu nous sauver, quand il est venu, et il n'a pas dit « Oh là 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 là, attends Père, attends, on va voir. » Jésus, il est venu tout entier, il s'est empressé de venir. « Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. » Et heureusement que Jésus, il n'est pas venu nous chercher à moitié. Heureusement que Jésus, il n'est pas à demi-mesure pour nous. Heureusement qu'à la croix, il n'a pas fait un demi-salut ou une demi-œuvre. Non, Jésus, c'est le Dieu de la pleine mesure. C'est le Dieu de la plénitude. C'est le Dieu qui, non pas nous a donné des choses, mais qui s'est donné lui-même. Et si moi, je ne me donne pas, si je ne coupe pas la tête à Shéchaï pour enfin me donner entièrement à lui, ben, je vivrai toujours en demi-mesure. Caleb, il a décidé que c'était quand même pas Shéchaï qui allait dicter son degré de qualité avec Dieu. Il a décidé que c'était pas Shéchaï qui allait fixer les termes de fonctionnement, les règles et la dimension de vie qu'il aurait ou pas avec Dieu. Le deuxième géant qui nous fait tourner en rond, il s'appelle Aïman. Aïman, ça signifie « uni à l'homme ». Alors, c'est sûr qu'il y a entre nous des liens d'unité, unité dans l'esprit, unité dans l'amour. C'est vrai que nous marchons les uns avec les autres dans l'unité, l'harmonie, de la paix, de l'esprit. Nous sommes sauvés par le même Père, nous avons les yeux fixés vers le même ciel, nous attendons le même Seigneur, lavés par le même sang, plongés dans le même baptême, etc., etc. Mais là, Aïman, uni à l'homme, ça signifie le mauvais appui. C'est la confiance en soi, c'est la confiance dans l'homme, la confiance dans la nature charnelle. C'est avoir confiance en soi. Aïman, c'est le géant qui vous amènera toujours, inconsciemment, à compter sur tout ce que vous voulez, mais pas sur Dieu. Il vous amènera à compter sur votre force, sur vos forces physiques. Ça ne le gêne pas, il n'a pas peur de vous si vous comptez sur vos forces physiques. Il voudrait vous amener à vous appuyer sur votre expérience, ou même sur vos expériences passées avec Dieu. On verra plus tard que David, quand il a vaincu Goliath, même s'il était très au clair sur certaines expériences passées, David ne comptait pas sur ses expériences passées. David avait un rapport très équilibré à son passé. Il avait déjà, d'une certaine façon, il avait déjà dans son cœur, il avait déjà coupé la tête de Aïman. Et inconsciemment, ce géant, il veut que nous nous appuyions sur des tas de choses, sur des tas de personnes, mais pas trop sur Dieu. Je vais m'appuyer sur ma santé, je l'ai dit, je vais m'appuyer sur ma force, je vais compter sur ma sagesse, je vais compter sur mon éducation. Oui, mais moi, on m'a toujours appris qu'il fallait faire comme ça, alors je fais comme ça. Je vais compter sur mes acquis, je vais compter sur mes ressources financières, je vais compter sur mon intelligence, je vais compter sur mes capacités, je vais m'appuyer peut-être sur mes enfants ou les enfants s'appuient excessivement sur leurs parents. C'est pas vrai que même quand ils ont 40 ans encore, ils s'appuient beaucoup sur vous quand même? Trop. Ben oui, mais bien sûr, ben évidemment. Et on s'appuie comme ça, évidemment. On peut s'appuyer de façon excessive sur un conjoint. Et pour Ayman, appuyez-vous sur ce que vous voulez, du moment que vous ne vous appuyez pas trop sur Dieu, voire pas du tout, c'est tout ce qui compte. Ayman, il veut nous amener à dépendre de tout, sauf de Dieu. Alors, est-ce que Dieu a quelque chose contre mon conjoint, mes enfants, ma santé, ma force, ma maison, mes ressources ? Non, évidemment. Tout ça, il le donne avec grâce. Mais il ne veut pas que j'en dépende. Pardon, je fais une parenthèse. Je pense aussi que régulièrement, je vous l'ai déjà dit souvent, Dieu ne nous en veut pas. Il n'a pas de compte à régler avec nous. Il n'a rien à régler. Jésus a payé toute la dette à la croix. Dieu n'est pas en colère. Il n'a rien à régler avec nous. Mais il y a des moments, frères et sœurs, je pense que Dieu, je suis sérieux, il touche à notre santé. Il peut toucher à nos finances. Il peut toucher à la santé d'un conjoint. Il peut toucher à des tas de choses comme ça autour de nous. Parce qu'il faut que l'on comprenne que ce sont des mauvais appuis. Et mon frère, ma sœur, tout ce sur quoi tu t'appuies, tu as un super conjoint qui a une super vie de piété, bénis Dieu, amen, c'est une grâce. T'appuie pas sur lui, parce que le jour où il s'écroule, tu t'écrouleras avec lui. Tous nos appuis, même si dans la grâce de Dieu, ils nous ont été communiqués, tout ce sur quoi je m'appuie, tôt ou tard, ça peut s'effondrer. Vos forces, elles vont pas s'effondrer un jour ? Et on peut multiplier les exemples. Vos enfants, ils se sont pas effondrés. Vos parents se sont pas effondrés. Votre conjoint, pardon, est-ce qu'un jour il n'a pas claqué la porte ? Parce qu'il a fait la crise de la quarantaine, il a vu une blonde et il est parti. Il y a combien de chrétiens qui souffrent de ça ? Et si à ce moment-là, je suis appuyé sur lui ou elle, je m'effondre avec. Et Dieu veut que je m'appuie uniquement sur lui et sur rien et personne d'autre. Parce qu'il est le seul qui, lui, ne passera jamais. Lui, il est le seul qui ne s'effondrera jamais. Et Ayman, il est malin, c'est un fin stratège comme ses frangins. Et il sait très bien que si vous vous appuyez sur tout ça, vous êtes en danger. Il a juste à attendre que ça tombe et vous tomberez avec. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des grandes victoires par le passé et quelques temps plus tard de vous noyer dans un verre d'eau ? C'est marrant dans les entretiens pastoraux, parce que souvent les frères et sœurs disent « Ouais, je me souviens, à telle époque, il y a eu ci, à telle époque, j'ai vécu ça, j'ai rencontré le Seigneur comme ci, j'ai rencontré le Seigneur comme ça, il m'a fait ça, et puis etc. » Et puis, je dis « Mais en fait, pourquoi je suis là ?»« Ah ben parce que maintenant, le problème, c'est qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Oui, mais je m'excuse, mais objectivement, ce que vous me dites là n'est rien en comparaison de ce que vous avez vécu hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Entre deux, il y a un brigand qui s'appelle Ayman, qui est arrivé subtilement, puis qui vous a dit « Mais tu sais tout ça, t'as pas besoin, tu connais, tu sais, tu vas y arriver. » Comme Samson, « Je m'en sortirai comme les autres fois. » Eh bien, un jour, on s'en sort pas. Un jour, on s'en sort plus. Un principe très simple, s'appuyer sur Dieu. S'appuyer, appui, puiser, piété, ça fait bien longtemps que tu ne puises plus rien en Dieu. Je crois, frères et sœurs, que c'est inconscient, je le sais, mais ce géant qui est Ayman, qui est aussi à l'intérieur de nos cœurs, c'est un obstacle à l'action de Dieu. C'est une sérieuse source, il est la cause, ce Ayman, et la cause de beaucoup d'échecs, de beaucoup de chutes, de beaucoup d'inquiétudes, de beaucoup de déceptions, de beaucoup de sécheresses. S'il y a des manques de ressources, c'est parce qu'on s'est appuyé sur des tas de choses, mais pas sur Dieu. Il est responsable de pauvreté spirituelle. La Bible dit, c'est Jérémie qui le dit, « Malheur à l'homme, malheureux est l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » Il va se détourner, il va détourner son cœur de l'Éternel. Et Jérémie ajoute, « Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. » Je cite aussi rapidement le Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Mais vous pourriez rajouter ta femme, tes enfants, ta santé, ton argent, ce que vous voulez. Caleb a aussi chassé Ayman, c'est lui qui l'a chassé. Caleb, c'était un homme qui était réellement appuyé sur Dieu. Il n'a pas compté sur lui-même. Il n'a pas compté sur les autres. Il n'a pas compté sur ses expériences passées. Il a compté sur aucune méthode, aucune stratégie, aucune force, aucun acquis. Il a compté sur Dieu et aussi sur Dieu seulement. Et ça, c'est aussi un point commun entre Caleb et David. On le verra un petit peu plus tard. Le troisième géant qu'il faut absolument vaincre avant de pouvoir affronter d'autres géants, c'est aussi un géant intérieur. C'est le troisième de cette sinistre trilogie, Talmaï. Talmaï, son nom signifie sillon, ornière. C'est la force de la routine. Talmaï, c'est la force de l'habitude, c'est la force de la routine, c'est la tradition, même si elle est évangélique, désolé, c'est la religiosité, l'esprit religieux, la force de l'habitude. Talmaï, c'est ce géant très subtil qui vous amènera toujours, d'une façon ou d'une autre, il est malin à refaire toujours les mêmes choses de la même façon. Talmaï, c'est le géant qui vous amène à vous attacher à des façons de faire, à des formes, au détriment du fond. Je m'accroche à des façons de faire au lieu de m'accrocher à ce que Dieu est. Talmaï, il m'amène à reproduire, pardon, bêtement, des schémas, des méthodes. On le verra encore, vous verrez, tout se recoupe. Lorsque Saül dit à David, « Bon, écoute, c'est bien, hein, bon, je vois bien que tu es motivé, hein, je paraphrase, je vois bien que tu es motivé, d'accord, tu vas aller combattre Goliath, mais prends au moins mon armure. Fais comme moi j'ai fait. Si tu fais comme ça, si tu fais comme moi j'ai fait, tu vas y arriver. Si tu t'y prends comme moi je m'y suis pris, si tu acceptes telle méthode, telle façon de faire, telle méthode, telle stratégie, telle routine, telle liturgie, parce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme liturgie, comme truc hyper réglé ? Oh là là, dans nos églises, c'est terrible. Oh. Non, pardon, je ne parle pas de l'église, on parle de l'Ancien Testament, là, pardon. David s'est débarrassé, c'est écrit, on le reverra plus tard, David s'est débarrassé de l'armure de Saül. David était beaucoup plus attaché à Dieu, à sa personne, à son nom, je parle le nom de Dieu, au principe de Dieu, qu'à une méthode, qu'à un truc, une stratégie ou une technique ou une armure, le truc d'un autre. Ça ne marche jamais. Frères et sœurs, je l'ai déjà dit, j'aime souvent le dire, Dieu est le Dieu du fond, il est le Dieu des principes. Et dans sa parole, que ce soit dans le Nouveau Testament pour Jésus, les apôtres ensuite, ou dans l'Ancien Testament, de toute façon, Dieu a toujours fait des choses extraordinaires en réponse à cette perle précieuse, à ce diamant précieux qu'est la foi, mais Dieu n'a jamais fait deux fois les choses de la même manière. Il est pénible, hein ? Il exagère, hein ? Je suis toujours pris à contre-pied. Et Dieu ne fait jamais les choses de la même façon. C'est exprès. C'est pour qu'on s'attache à lui et pas à des façons de faire. On peut être chrétien, sincère. On peut être pasteur, sincère. On peut être une belle église, sincère. Mais malheureusement, laisser Talmaï diriger notre vie et vivre d'habitude. On est là, pardonnez-moi, on est là. On est comme en pilote automatique, quoi. On fait toujours les mêmes choses, aux mêmes heures. Vous n'avez rien à faire pour être dans la routine. Votre vie vous impose une routine tous les jours. Vous levez tous les jours, plus ou moins à la même heure. Puis quand vous vous êtes levés, les frères et sœurs qui sont en retraite, quand vous vous êtes levés tous les jours à 5 heures du matin parce que le réveil sonnait, parce qu'il fallait au boulot, ben même en retraite, vous vous levez à 5 heures sans réveil, parce que c'est comme ça, c'est la routine, vous êtes réglés pour ça. Vous mangez plus ou moins les mêmes choses. Chaque semaine, vous inversez les menus, mais vous mangez toujours plus ou moins les mêmes choses. À table, vous vous asseyez toujours à la même place. À l'église, 9 fois sur 10, vous vous asseyez à la même place. Il y a des tas de choses qu'on fait comme ça. On ne réfléchit même pas. On fait toujours comme on a toujours fait. Ça me rappelle cette anecdote. C'est vraiment arrivé un jour, une petite fille, elle voit sa maman qui prépare le repas du dimanche midi après le culte. Et puis, elle s'étonne, cette petite fille, de voir que sa maman, à chaque fois qu'elle prépare le rôti, déjà tous les dimanches, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un rôti le dimanche midi, c'est rôti, c'est comme ça, elle lui fait un rôti tous les dimanches midi, puis la petite fille est quand même dubitative parce qu'elle voit que sa maman, avec beaucoup de précision, beaucoup d'attention et beaucoup de cœur, à chaque fois, elle coupe le rôti
aux extrémités, comme ça. Hop. Elle prend les deux extrémités du rôti, elle les met dessus, et ensuite elle met le plat au four.
Il y a des gens qui sont experts en cuisine, ils se disent, mais pourquoi elle fait ça? Et la petite fille, elle se dit, mais pourquoi ma maman, elle fait ça tout le temps? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être du jus qui va couler. Puis un jour, la gamine, ça la tracasse parce qu'elle a le rituel tous les dimanches midi, donc elle va voir sa maman. Puis elle dit, maman, mais pourquoi tu coupes le rôti comme ça, avec tant d'attention, tant de soin, pour mettre les morceaux dessus? Pourquoi tu fais ça tous les dimanches, tout comme ça? Puis la mère, elle fait... Eh ben, qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes questions? Moi, j'en sais rien, moi. Va demander à ta mère, à ta grand-mère. C'est, on m'a appris, j'ai toujours fait comme ça. Va demander à grand-mère. C'est la recette de grand-mère. Va demander à grand-mère. La petite fille, elle va voir sa grand-mère. Pourquoi le maman, elle coupe le rôti comme ça? Elle dit que c'est toi qui lui as toujours appris à faire. Puis la grand-mère, elle rigole. Elle dit, c'est pas vrai. Elle fait encore ça? Elle dit, mais non, mais c'est parce qu'à l'époque, mon plat était trop petit, le rôti rentrait pas dedans. Alors j'étais obligé de le couper, puis pour pas jeter la viande, ben je le mettais dessus pour que ça rentre dans le four, parce qu'on était tellement pauvres, on n'avait qu'un petit plat. Pardon, frères et sœurs, mais il y a des moments... C'est terrible, hein, l'esprit de Talmaï. Hein, quand vous faites toujours les mêmes choses, et que vous êtes convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire, et l'autre, il arrive, il fait différemment, je dis, mais qui c'est celui-là, mais... Il n'est peut-être pas vraiment chrétien, mais est-ce qu'il est vraiment pasteur celui-là? Parce qu'il ne fait pas comme l'autre et tout. Ah Seigneur, fais-nous grâce. L'esprit de Talmaï. Talmaï, qu'est-ce qu'on peut dire encore un peu sur Talmaï? Vous voyez, ça nous montre quand même, frères et sœurs, qu'on doit se méfier de notre propre nature. Ce n'est pas méchant, mais c'est la mienne aussi, notre nature. Et naturellement, religieuse. On s'attache, vous n'avez rien à faire, c'est en vous, Talmaï est en vous. Naturellement, vous vous attachez à des façons de faire. L'homme est naturellement religieux, c'est ce qu'il est par nature, et on cherche à se relier à Dieu par des traditions, on cherche à se relier à Dieu par des rites, par des façons de faire. Et tout ça, c'est l'esprit de Talmaï, c'est l'esprit de la religiosité, au point qu'un jour, Dieu dit dans sa parole, « Je supporte plus vos fêtes, j'en peux plus de vos sacrifices, je paraphrase encore, pardon, j'en veux plus de vos holocaustes, je les ai en horreur, je les ai en dégoût. Mais pourtant, Seigneur, c'est toi qui nous as demandé de faire ça. » Oui, mais parce que vous faites toujours les mêmes choses, toujours les mêmes formes, la même liturgie, vous avez perdu le fond, vous avez perdu le sens de ce que vous faites. Vous êtes attaché à des formes, mais pas à Dieu. Allez, je vais me confesser devant vous. Quand je suis arrivé dans l'église de Caen, les frères et sœurs m'ont parlé de leur témoignage et m'ont raconté l'historique de Caen. Et quand ces témoignages m'étaient rapportés, il y avait des choses extraordinaires. Et puis j'entendais même parler de résurrection, des guérisons, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et les frères et sœurs me racontaient comment l'église de Caen avait démarré dans les années 50, etc. Ça a été le cas un petit peu dans beaucoup d'autres endroits ailleurs, je ne vous apprends rien. Voilà, tous les anciens, vous avez vécu ça. Puis moi, dans ma petite tête de jeune pasteur, qu'est-ce qu'on est bête quand on est jeune, je me dis, oh mais c'est ça qu'il me faut. Et moi, je commence à m'imposer parce que je vois le ministère des pasteurs qui étaient avant moi. Et bébête, je commence à couper les tranches de rôti et à faire pareil. Et là, je me dis, à partir de maintenant, Seigneur, tous les jours, je me lève à 5 heures du matin et je prie. Au moins une heure. Plus le temps de méditer la Bible, plus le temps de ceci, minimum 5 à 7. Tous les jours à 5 heures, je me lève, Seigneur, et je te prie. J'ai fait ça une semaine. Le matin, j'étais fou. Je tournais en rond dans la cuisine. « Oui, Seigneur, bénis l'église de Caen. Je te prie afin que tu lis. » Parce qu'on a un vocabulaire pastoral, vous savez. « Seigneur, tu vas lui rendre sa gloire passée par l'onction et les miracles qui accompagnent la prédication de ta parole. Te prions pour les prodiges, les miracles au milieu de nous. » Et puis là, j'étais parti, je tournais en rond pendant 2 heures dans ma cuisine. J'y allais. J'ai fait ça pendant une semaine. 2 semaines. 3 semaines, la 4e semaine, quand le réveil sonnait, j'étais... 5 semaines, 6 semaines. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prier. J'ai dit que je suis plus attaché à Dieu
qu'à ma pratique de prière. Est-ce que je l'ai fait 6, 7, 8 semaines, 9 semaines, je ne sais plus. Au bout d'un moment, j'étais dans un état physique, j'étais fatigué spirituellement, j'étais fatigué moralement, j'étais fatigué physiquement, je n'en pouvais plus. Je tournais en rond dans mon ministère, j'étais là, il fallait que je cherche, je ne sais pas combien d'heures, pour trouver l'ombre du début, du commencement d'un message peut-être intéressant, et je ne m'en sortais pas, je ne m'épanouissais pas dans la grâce, parce que j'étais écrasé par le 5-7, 5-7, c'est de 5 à 7, c'est de 5 à 7, c'est de 5 à 7, c'est là que ça va se passer. Et j'étais tellement crevé. Puis vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs ? Un matin, le Seigneur, il m'a parlé. Et j'ai compris que le Dieu que je priais, il m'aimait à 5 heures, il m'aimait à 7 heures, il m'aimait à 9 heures, il m'aimait à 11 heures, il m'aimait à 13 heures. Il m'écoute toujours à 15 heures, il est toujours là à 17 heures, et il est toujours là à 19 heures. Et il m'a fait comprendre que ce que l'Église avait besoin, c'était pas de retrouver des miracles. Ce dont l'Église avait besoin, c'était de retrouver la mesure de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait le boulot. L'esprit de Talma, il m'avait tellement écrasé. Je priais, je mettais toute ma fougue, tout mon zèle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, frères et sœurs. Je dis que je suis attaché au Dieu que je prie. Pas à des formes, pas à des créneaux horaires. Vous savez ce que je fais aujourd'hui, depuis, ça fait 7 ans, presque 8 ans maintenant que cet épisode est passé. C'est un principe. J'aime pas les règles, mais des fois, il y a des bons principes. Je ne lis jamais ma Bible au même endroit dans la maison. Je ne lis jamais ma Bible la même temps, la même durée. Ma femme ne sait pas. Des fois, elle me dit « Où t'as été chercher ce message ?» Ça te regarde pas. Pas sur Internet, je te promets. Là-dedans. Je ne prie jamais à la même heure. Je m'interdis de prier dans la même position physique. Je ne prie jamais dans la même pièce. Je ne prie jamais au même créneau horaire. Si je suis en forme à 5 heures du mat pour prier, je prie à 5 heures du mat. Si je suis crevé et que je dors jusqu'à 9, moi je prie à 9 heures, à 11 heures, je prie à 13 heures. Je peux me réveiller la nuit. Des fois je me réveille la nuit, il y a un truc, j'ai une pensée, je prends un papier, une feuille et je gratte. J'écris, je me recouche. Le Saint-Esprit peut me réveiller la nuit. Je lui appartiens la nuit, je peux prier la nuit. Je peux être réveillé par sa présence. Ma vie, elle n'est pas faite de tradition. Elle n'est pas faite d'obligation, elle n'est pas faite de routine, elle est faite de la vie de Dieu en moi. Et c'est ça que je veux vivre et c'est ça qu'on a besoin de vivre. Et Caleb, je termine vraiment avec ça, Caleb avait vraiment, vraiment compris que Sheshai, Aïman et Talmaï, c'était trois géants qui devaient absolument être évincés, dégagés, parce que c'est cet esprit de ce manque d'engagement, cette vie toujours à moitié, toujours en demi-teinte. C'est Aïman, la suffisance, le mauvais appui humain, la confiance en soi. C'est Talmaï, le sillon, l'ornière, l'esprit religieux, traditionnaliste, liturgique. C'est ça qui, dans mon cœur, empêche la véritable vie de se manifester. Et ce sont ces géants-là qui, le jour où il y aura un Goliath devant moi, vont me tenir paralysé. Et on ne pourra jamais vaincre les géants, qui sont à l'extérieur, si on n'a pas d'abord vaincu, identifié et vaincu ceux qui sont à l'intérieur. Parce que ceux qui vous empêchent de renverser des Goliaths demain, ce sont peut-être ceux qui sont là à l'intérieur de votre cœur, que vous n'avez pas encore identifié et que vous n'avez pas encore vaincu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier, s'il vous plaît.